17h38 minutes, on est à moins 18 degrés avec les vents. Le refroidissement éolien se place à moins 29 degrés. À cause des vents, on a de la poudrerie aussi, donc, qui pourrait venir compliquer la conduite. Faites attention sur les routes. Moins 12 sera le maximum qu'on va atteindre aujourd'hui. Faible neige intermittente par moment. Demain, ça se réchauffe, moins 6 degrés, possibilité d'averse de neige à 40% et alternance de soleil et de nuages pour jeudi et un jeudi confortable côté météo. On parle d'un maximum de moins 1 degré. Pas facile ce matin, Max, sur les routes.
Ouais, non, vraiment pas facile. Les incidents qui sont ajoutés dans les dernières minutes. Robert Bourassa Sud, sortie chemin Sainte-Foy, c'est partiellement travé par une panne. Également, Capitale Ouest, fin d'accès par rue Clémenceau, là, hauteur rue Seigneurial, c'est partiellement travé par une panne aussi. 73, direction Sud, sortie rue du Parc des Chutes, partiellement entravé par une panne à cet endroit-là aussi. Ce que tout ça donne comme résultat, secteur des ponts, c'est un bon bordel présentement pour passer de la rive Sud à la rive Nord. 20 Est également. Là, vers la sortie justement du secteur des ponts, vraiment pas facile non plus. Si on va sur la rive nord, 40 Est dans le croche de Saint-Augustin de Desmaures, c'est bien au rouge aussi, du rouge qui va reprendre un peu plus loin dans le coin de Duplessis. Capitale, direction ouest en Seigneurial et Laurentienne, c'est au rouge. Capitale Est, coin de Robert Bourassa, ralenti aussi. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est jamé. Arcade Sud entre l'avenue industrielle et Chauveau Ouest, assez difficile. Difficile aussi. Laurentienne, direction sud, là, jusqu'au boulevard Jean-Talon-Ouest, à partir d'assez haut, c'est assez compliqué également. Et je mentionnerai peut-être aussi, là, en s'en allant vers Shannon, dans le coin de la base militaire, il y a un ralentissement qui est considérable. Vous mentionnez dans l'actualité, perquisition en ce moment en matière de trafic de stupéfiants. Grosse opération en cours là, dans les régions de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches et des Laurentides. Opération qui découle d'une enquête amorcée en 2024 qui mobilise plus de 70 policiers de la Sûreté du Québec, des membres du groupe tactique d'intervention et près d'une quinzaine de policiers du SPVQ, des perquisitions qui visent principalement les résidences et véhicules utilisés par les membres du réseau qui opère sous l'égide des membres des Hells Angels du chapitre de Québec.
Merci beaucoup, Max. Effectivement, pas facile ce matin sur les routes, mais on navigue ça ensemble, chers amis. Merci de votre aide et de vos informations via le 88-971-1021. On va jaser politique avec l'analyste et chroniqueur Marc-André Leclerc qui est au bout du fil. Bon matin, Marc-André.
Bon matin.
Marc-André, on va commencer en jasant de Mark Carney. Est-ce qu'elle est finie? Quelle date qu'on est? 18 février, 7h41. Tu finis cette course-là à la chefferie du Parti libéral du Canada. Christian Freeland, as-tu une chance?
Ben très mince. Elle a une chance parce qu'elle est encore sur le bulletin de vote. Là. Je veux dire, faut jamais. Ça, c'est comme les candidats qui ont été élus là, en 2011 là, dans la vague orange au Québec là, du NPD. Là, je veux dire. Donc elle a une chance parce qu'elle est encore là. Puis tu sais, le gros de la campagne va arriver lundi, mardi prochain. Là. Avec les débats en français et en anglais du côté de Montréal la semaine prochaine, donc le 24-25. Donc, c'est sûr que tout peut arriver à ce moment-là. C'est toujours étrange une campagne, une course à la chefferie. Hein. C'est extrêmement, quand on parle avec les sondeurs, c'est extrêmement difficile à sonder. On est quoi, environ 40 millions de Canadiens, il y a peut-être quoi, 25 à 30 millions d'électeurs là-dedans, mais le 9 mars, il y a 400 000 personnes qui peuvent voter là. Et de ces 400 000 là, il y en a peut-être la, tu sais, 40% qui voteront pas là. Fait qu'on est peut-être rendu à du 300 000 personnes là, qui vont choisir le nouveau chef libéral, le futur premier ministre du Canada de facto. Donc, mais on sent là, je dis tout ça, mais on sent très bien que M. Carney a une longueur d'avance, mais également le défi, c'est que c'est un vote qui est préférentiel. Tu peux toujours te faire jouer des tours, mais mettons que normalement, M. Carney devrait remporter au premier tour, puis il aurait besoin de ça, hein, de remporter une grosse victoire pour avoir continué sur l'élan là, qu'il a bâti au cours des derniers jours. Là.
Marc-André, est-ce que Mark Carney réussit le défi de se détacher de Justin Trudeau?
Il essaye, il travaille fort pour ça. Présentement, à cause de Donald Trump, ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, vu qu'on parle de la guerre tarifaire, de l'annexation du Canada aux États-Unis, tout ce qui s'est passé dans notre sport national au cours des derniers jours, M. Carney est quand même chanceux, là, d'une espèce d'écran de fumée. Mais tu sais, c'est fou de M. Carney de le voir aller comme vraiment sont en train de piler, de marcher sur l'héritage de M. Trudeau, puis M. Trudeau est encore là. Ouais. Son quasiment en train de nous dire que le Parti libéral du Canada aurait jamais dû exister. Là, c'est la taxe sur le carbone, on en a parlé ensemble, c'est les gains en capital. M. Carney, hier, en entrevue, est allé dire ben, « Je serai un meilleur premier ministre économique que Justin Trudeau ». Vraiment, là, M. Carney fait tout présentement pour se détacher des libéraux. Cependant, c'est sûr que présentement, ce qui se passe aux États-Unis prend beaucoup de place. Mais on est à l'aube d'une campagne électorale. Puis une campagne électorale, est-ce qu'on va passer 36 jours de campagne à parler de Donald Trump? Peut-être pas non plus. C'est les enjeux plus domestiques qu'on appelle vont reprendre de dessus. Et ce qui va être très difficile pour M. Carney, au-delà de lui, de dire, ben moi, je suis différent, même si toutes les gens qui organisent sa campagne, c'est l'équipe à Justin Trudeau, moi, je suis différent, même s'il l'a conseillé, c'est que pour les libéraux, présentement, ça va être de dire, ben regardez, on s'est trompé au cours des 9 dernières années, mais faites-nous confiance pour les 4 prochaines, dans le contexte avec Donald Trump. Là, on va être bon. Là, on va faire exactement le contraire de ce qu'on a fait pendant 9 ans. Fait que ça, je pense que ce pitch de vente-là va être très difficile pour M. Carney et son équipe.
Marc-André, cette fin de semaine, justement, Mark Carney a tenté de se défaire de cette étiquette-là du vieux libéral en mentionnant en 2012, Stephen Harper du Parti conservateur m'a approché pour que je devienne ministre des Finances. C'est-tu vrai cette histoire-là, selon toi?
Ben, j'imagine que si M. Carney le dit, j'imagine que c'est vrai. Bon, mais comment ça a été dit? Dans quel contexte? Tu sais, moi, en 2012, là, j'étais à Ottawa pour les conservateurs sur la colline, puis on n'a jamais... Moi, j'avais jamais entendu cette histoire-là. Également, j'ai parlé avec plusieurs anciens collègues qui étaient là en même temps que moi à l'époque, puis personne n'a vraiment entendu parler de ça. Cependant, je pense qu'il faut mettre un peu de contexte pour le moment dans lequel ça s'est arrivé. En 2012, le ministre des Finances, c'était Jim Flaherty. Jim Flaherty, en 2012, dans les médias, on le voyait dans ses apparition publique, de plus en plus on le voyait qui était gonflé, qui était enflé. C'est au début de janvier 2013 qu'on a appris que M. Flaherty était gravement malade. Là. Il prenait de la cortisone, tout ça, puis il est décédé un an plus tard. Est-ce que c'est dans ce contexte-là, et ça c'est juste c'est M. Harper qui va pouvoir le dire, est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'à un moment donné, probablement qu'à la fin 2012, M. Flaherty a annoncé à M. Harper qu'il était malade, gravement malade, est-ce que c'est dans ce contexte-là? Mais également, faut pas se surprendre, là. Si, tu sais, je veux dire, on croit M. Carney, là. En 2008, là, c'est M. Harper qui a nommé M. Carney à la tête de la Banque du Canada. Donc, s'il faisait assez confiance en 2008 à M. Carney pour être gouverneur de la Banque du Canada, et on se rappelle, en 2008, on était plongé dans une crise économique sévère.
Vraiment?
Ben, ça serait normal qu'à un moment donné, M. Harper lui dit, tu sais, ça aurait pu arriver que M. Harper dise à M. Carney, veux-tu être ministre des Finances, là? Mais bon, c'est sûr que c'est une bonne stratégie. C'est une belle stratégie de M. Carney, parce que tout le monde part en vrille avec ça, puis là, de dire, oh mon Dieu, il s'est fait demander ça, puis là, ça fait des manchettes. Cependant, est-ce que c'est payant de sortir cette information-là pour M. Carney à ce moment-ci? Parce que pour les libéraux, là, les 300-400 000 qui vont voter le 9 mars, Stephen Harper, là, c'est l'antéchrist pour eux autres.
Oui, en effet.
Je comprends que M. Carney, lui, dans une perspective stratégique d'aller chercher plus le centre là, du spectre politique, il dit hey, « Moi, je vais vous montrer que j'étais proche des conservateurs, ça va m'aider. » Mais est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça va l'aider dans la course chez les libéraux qu'eux, ils veulent vraiment quelqu'un qui est rouge à la vie, à la mort? Ou est-ce que ça va l'aider également à aller chercher du vote du NPD lors de la prochaine campagne? Fait que c'est un couteau à double tranchant.
Est-ce que Stephen Harper devrait sortir plus publiquement pour s'expliquer ou il est mieux de ne pas le faire et de laisser toute la place à Pierre Poilievre?
Ben, c'est sûr que probablement du côté de l'équipe de M. Poilievre, on aimerait ça qu'il sorte si l'information est fausse, si c'est pas vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça vient rajouter? Est-ce que ça nuit à M. Poilievre, à son équipe? Mais personnellement, je pense que c'est une note un peu en bas de page. Ça vient rien changer. Ça fait, si c'est vrai, cette discussion-là en 2012, ça fait 13 ans. Le contexte a bien changé. À ce moment-là, c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir depuis 6 ans. Là, on est dans un pays qui est après 9 années du Parti libéral.
Marc-André, justement, tu penses quoi du, appelons, le jeu ou la stratégie des conservateurs et de M. Poilievre pendant cette course à la chefferie des libéraux?
Ben, c'est sûr que c'est toujours tannant pour n'importe quel parti quand il y a une course au leadership d'un côté, tu sais, l'attention est de ce côté-là. Mm-hmm. En plus, quand le Parlement est fermé. Parce que pour un parti d'opposition comme les conservateurs, la plus mauvaise nouvelle que tu peux avoir dans ton année, c'est quand le Parlement est fermé. Parce que les partis d'opposition, que ce soit les conservateurs, les bloquistes ou le NPD, tu vis, dans notre système parlementaire, tu vis beaucoup quand le Parlement est ouvert.
Ouais.
Fait que c'est là que tu perds des questions, que les journalistes sont dans les couloirs, que tu peux faire des scrums, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Sinon, tu es obligé d'organiser des événements comme M. Poilievre a organisé samedi. Là, présentement, on le voit, les conservateurs tirent à boulet rouge sur M. Carney, mais en fait, Justin Trudeau a démissionné le 6 janvier à 10h20, puis à 10h22, les conservateurs attaquaient M. Carney. Là. Fait que tu sais, Mais ça, également, c'est toujours un couteau à double tranchant. Parce que si ton adversaire... Parce que le monde, en politique, quand tu attaques ton adversaire, les gens ils disent « Oh mon Dieu, c'est la panique à bord. » Cependant, si ton adversaire, tu le laisses aller, tu le laisses se définir, tu dis rien, puis un moment donné, après 2 semaines de campagne, au milieu de la campagne, là, tu commences à l'attaquer, un, il est rendu trop tard, puis le deux, là, t'es vraiment en panique. Fait que dans les livres, là, dans les playbooks de la politique, habituellement, tu commences, dès que ton adversaire apparaît, puis que tu penses que c'est lui qui va remporter, même si la course n'est pas finie, tu commences à l'attaquer. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et puis juste une petite relance, Marc-André, là-dessus, parce que tu l'as mentionné, le Bloc puis l'NPD dans tout ça?
Ah, ben c'est pas facile. Hein?
Ouais.
On se dirige, lorsqu'on regarde les sondages avec ou sans Mark Carney, tout ça, on se dirige vraiment dans une course, la prochaine élection, un peu de bipartisme, conservateurs et libéraux. Peu de place pour le Bloc au Québec, avec une montée du nationalisme canadien, du patriotisme, et pour le NPD également, c'est la même chose, avec un nouveau chef libéral, on voit qu'il y a beaucoup d'électeurs du NPD qui sont prêts à retourner ou se diriger du côté des libéraux. Fait que pour le NPD et le Bloc, les prochaines semaines vont être extrêmement difficiles, la campagne va être extrêmement difficile de se définir là-dedans, quand également tout ça en train de fond avec un Donald Trump de côté de la frontière qui est très imprévisible. Mais ces deux parties-là, peut-être moins le Bloc, parce qu'après, ils ont fait différents échéanciers. Ouais. Là, au courant d'automne, à la moitié de l'automne, ils ont dit on est prêt à le faire, M. Trudeau. Mais surtout le NPD, ils ne seront que les seuls à blâmer si jamais les résultats électoraux de la prochaine campagne sont catastrophiques. À plusieurs occasions cet automne, il aurait pu défaire le gouvernement. En fait, ça aurait été bon pour le pays, peu importe la couleur, d'avoir un nouveau gouvernement en place pour l'arrivée de Donald Trump en janvier.
Radio-Canada nous apprenait ce matin que la ministre Pascale Saint-Onge n'allait pas se représenter aux prochaines élections fédérales. Est-ce qu'on va en voir encore pas mal, tu penses, quitter le navire comme ça avant les prochaines élections?
Il y en a beaucoup là chez les libéraux. Là. Madame Saint-Onge s'ajoute à une longue liste. Oui. Pablo Rodriguez qui est rendu dans la course à la chefferie au PLQ. Madame Bibeault également en esprit qui veut se présenter pour la mairie de Sherbrooke. Il y a Anita Anand. Tout ça. Il y a beaucoup de libéraux qui se représentent pas. Et c'est un peu surprenant de voir ça à ce moment-ci parce que normalement, il y a deux choses. Normalement, on devrait voir les gens rester mobilisés, voir qu'on le regagne dans les sondages et être là. Donc ça c'est surprenant. Mais d'un autre côté, pourquoi ils le font à ce moment-ci, c'est que t'es beaucoup mieux d'annoncer ton départ avant le 9 mars, avant qu'il y ait un nouveau chef, que de faire ça le 10 mars au matin, puis que t'as l'air de quelqu'un qui s'en va parce qu'il est pas content du chef qui a été élu la veille. Fait que je pense qu'on risque, ceux et celles qui vont pas se représenter, risquent de le faire d'ici le 9 mars. Sinon, c'est vraiment une jambette au nouveau chef. Tu sais, t'es élu le 9 mars comme nouveau chef, puis le 10, 11, 12, tu gères 3, 4 députés ministres qui s'en vont. C'est pas un bon début, là.
Marc-André, en terminant, Donald Trump est présentement l'ennemi numéro un au Canada avec sa menace de 51e État. Est-ce que Pierre Poilievre est une victime d'être associé à Donald Trump ou il a trop fait de la politique Trumpiste et ça vient jouer contre lui à l'heure actuelle?
Ben, on a vu samedi dans son rassemblement qu'il essaie de changer ça. Là. Moi, je connais des conservateurs qui étaient là, qui m'ont texté, ils ont dit « Marc-André, ça fait vraiment bizarre d'être dans un rassemblement conservateur avec du blanc et du rouge partout à la grandeur de la salle. On avait laissé le bleu de côté. » Ben, c'est sûr que pour M. Poilievre, ça va être le jeu des libéraux, puis déjà des publicités qui ont sorti au cours des derniers jours, en prenant des mots que M. Poilievre a dit dans les derniers temps, puis les mêmes mots que M. Trump a dit. C'est certain qu'il y en a, hein, puis il y en a qui vont avoir peur, parce que c'est le style plus, ils vont dire un style un peu plus à la Trump. Il y en a d'autres qui vont dire, ben ça prend un Poilievre pour négocier comme une personne avec Donald Trump. Cependant, je pense que M. Poilievre, en fin de semaine, il réussit ce genre de pivot-là, pas en mettant tout son programme et toutes ses annonces de la dernière année à la poubelle, mais d'expliquer justement que encore plus que jamais, on a besoin vraiment de changer la façon que les choses fonctionnent ici au Canada. Et clairement, ben, Monsieur Poilievre, il le dit en fin de semaine, il va le dire, tu sais, ça fait 9 ans qu'ils sont là. Là, ils sont en train de nous dire depuis un mois que tout ce qu'ils ont fait, ça fonctionnait pas, qu'ils vont tous changer leurs décisions. Est-ce qu'on va vraiment, on peut croire ces gens-là pour les 4 prochaines années? Et je pense pas que la prochaine campagne, on se demande souvent, oh, c'est quoi la question de l'urne, là? Un, il est très tôt pour le dire. Ouais. Mais deux, est-ce que c'est vraiment d'aller, qui est la meilleure personne pour aller négocier avec Donald Trump? Je ne pense pas. Parce que je pense pas qu'il n'y a pas personne qui peut aller négocier avec Donald Trump dans la situation actuelle. Cependant, qui a le meilleur plan pour faire en sorte d'adapter, d'ajuster, d'être plus résilient, d'être moins dépendant des États-Unis et d'améliorer le coût de la vie, tout ça qui reste l'enjeu numéro un, là, même des derniers sondages, c'est encore le coût de la vie qui est l'enjeu numéro un au pays. Je pense que c'est plus dans ce côté-là que les électeurs vont réfléchir durant la prochaine campagne, qui devrait arriver quand même peut-être d'ici un mois, là, on va être en élection générale. Là.
C'est vrai, faut pas l'oublier. Marc-André, merci pour la jasette ce matin, toujours très, très, très apprécié.
Bon mardi, au revoir.
Salut, à bientôt.
Salut.
Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur, analyste politique, toujours super intéressant de jaser avec lui.
Ah, sur la coche tout le temps, puis en effet, on va vraiment avoir le droit à une course à deux, le patriotisme canadien qui s'est développé avec les menaces de Donald Trump. Fait en sorte que, malheureusement pour eux, le Bloc québécois va avoir énormément de difficultés à se démarquer dans cette course.
Il reste très fort quand même en ce moment dans les sondages, puis on est au plus fort de ce soi-disant patriotisme-là. Le Bloc dans les sondages est encore super fort, puis ça peut être dur à expliquer,
ouais.
Mais dans les faits, présentement, le Bloc est encore super fort là, au Québec.
Mais peut-être qu'au Québec, il va y avoir un petit peu plus de course à trois. En tout cas, je vois les libéraux reprendre la vigueur au Québec. Peut-être moi qui est trop Mark Carney ou qui voit trop moi, l'effet Carney grand.
Un autre qui se fait charmer.
Ouais, c'est ça, un autre qui se fait charmer. Ben, tu sais, je l'ai vu face à Stéphette avec le bonhomme carnaval.
Ah, c'est ça.
À un moment donné, t'es pas le choix. Moi, je vote pour la Stéphette.
Elle finit ce course-là. Christophe Nealon, aucune chance. Là.
Non, mais peut-être. Marc-André l'a bien dit. Ça sera peut-être pas la question de l'urne qui va aller négocier avec Donald Trump. Pour le moment, pour moi, ça l'est, puis je pense que ça va venir jouer contre le Bloc québécois, mais je peux me tromper.
C'est vrai. 7h56 minutes, un peu de circulation avant la pause.
Oui, Robert Bourassa Sud, là, fermeture sortie chemin Sainte-Foy. C'est une panne présentement, le remorquage qui est en cours. Puis vous rappelez en passant, tant qu'à y être, que c'est très dur ce matin, notamment Capitale Ouest, là, excessivement au ralenti entre Seigneurial et Laurentienne. Il y a bien d'autres difficultés, on y reviendra peut-être après la pause, mais sinon, en attendant, vous dire que secteur des ponts, c'est aussi assez terrible présentement pour passer de la rive sud à la rive nord.
On a appris que dans l'affaire de l'école Bedford, les 11 enseignants réprimés sont toujours payés.
Ouais.
Le prof d'en cause en pense quoi? On va y poser la question après la pause. Boulevard.